Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, le Kiosque Magazine du 24 août est commencé.
24?
Oui, c'est le lundi 24 août.
Oui, donc, le lundi,
on fait dans la culture et la société, n'est-ce pas?
Ah oui?
Oui, oui. Alors, autour de la table du studio, Francelyne Huviard.
Oui, bonjour.
Bonjour, Francelyne. Serge Hamelin.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, Roger Roy.
Oui, et en régie, celui qui va nous guider pour l'heure qui s'en vient, c'est Mathieu Tessier.
Tellement sympathique. Merci.
Un autre nom m'a été soufflé à l'oreille, mais je ne le répéterai pas.
Non, c'est ça.
Bon, alors qu'avons-nous au menu aujourd'hui, Francis?
Oui, alors moi je vais vous lire deux articles tirés de la revue Le Bel Âge de juillet-août 2015. Le premier, c'est L'art de se faire plaisir.
Pas par Jacqueline Simoneau.
Non, par Julie Stanton.
Ah.
Et le deuxième article, 10 façons de connaître vos voisins, cette fois par Jacqueline Simoneau.
Semblait aussi. Oui,
on peut l'éviter.
Vous avez parlé de menu? Ben oui. Moi, je vais vous parler de tomates en folie. On va faire des tests sur les salsas. Hein? Ah, tests sur les salsas.
Okay? Oui.
Et puis, on va aller dans la revue itinéraire et je vais parler des amandes amères, mais pas le fruit, là.
Non,
ah, pas oui. Des amandes.
Non, pas les
amandes. Ah oui,
non,
oui, oui, oui. Dans le domaine payer.
De la judiciarisation.
Les contraventions.
Oh, bon. Contraventions, on se croirait à Roma.
Alors, pour moi, je vais vous parler d'éthique.
L'éthique?
D'éthique, la morale.
C'est pas celle qui pique.
La morale. Les règles de conduite. Ça, c'est dans un deuxième temps, mais tout de suite, je vous parle des bêtes.
Ah,
mais à ce moment-là, je vous parle d'éthologie. Je suis grec un peu ce matin.
Oui.
Dans la racine de mes mots.
Éthologie.
Éthologie. Qu'est-ce que c'est que l'éthologie? C'est l'étude scientifique du comportement des animaux dans leur milieu naturel.
Oh, que ça va être beau. Moi, j'écouterais ça, moi.
C'est dans l'actualité. C'est dans l'actualité du mois de septembre.
Hey, vous ça, êtes c'est... devancé,
oui, oui,
vous.
Oui.
Vous êtes en avant de votre temps.
Habituellement, on est en retard, mais là, monsieur, je te dis, monsieur...
Pas en retard, attardé. Mais maintenant, on est devancé.
Des bêtes... Des bêtes pas si bêtes.
Il me semblait.
C'est ça. C'est le titre de l'article qu'on peut lire dans cette...
On vous écoute.
...cette actualité. Un chat ne serait pas intelligent parce qu'il ne se reconnaît pas dans un miroir? Rien à voir, affirme la sociologue et psychologue Vinciane Desprez, qui remet en cause la logique sur laquelle des chercheurs s'appuient pour scruter l'âme animale. C'est Daniel Barry qui signe ce texte, qui l'a rencontré, Vinciane Desprez. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions? C'est le titre lourd de sens du plus récent livre de Vinciane Desprez. Dans cet ouvrage de vulgarisation, l'auteur, philosophe et psychologue spécialisé en éthologie, ébranle notre façon de voir le monde animal et de comprendre l'intelligence des animaux. Professeure à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Liège, elle étudie les humains qui étudient les animaux. C'est une philosophe des sciences qui fait l'anthropologie des éthologues, ou mieux, la façon dont les humains s'y prennent pour scruter l'âme animale. Son approche la conduit à observer à la fois les scientifiques dans leur laboratoire et les éleveurs avec leurs troupeaux. À ses yeux, ce n'est pas lorsque nous attribuons des sentiments humains aux animaux que nous faisons de l'anthropomorphisme, mais lorsque nous concevons des recherches animales élaborées sous le mode de la logique humaine. Ces recherches placent souvent les animaux dans des conditions comparables à celles d'étudiants passant des examens. Si le chat ne semble pas se reconnaître dans un miroir, c'est peut-être parce que ce test ne l'intéresse pas et n'est pas adapté à son monde. Il faut lui poser les bonnes questions, de la bonne manière. Au
comme aux étudiants.
C'est ça. Question posée à Mme Desprez par Daniel Barry. À vous lire, les recherches en éthologie ne reposeraient pas sur la bonne approche. Comment les chercheurs devraient-ils procéder? Elle dit, « Mon travail en tant que philosophe consiste à chercher ce qui fait les réussites. Comment les scientifiques s'y sont-ils pris lorsque leurs travaux ont rendu les êtres plus intéressants? Qu'ont-ils fait de particulier pour que tel animal donne telle réponse? Quelles questions ont-ils posées? » Pour la primatologue Thelma Rowell, les moutons seront toujours stupides tant qu'on leur posera des questions qui leur paraissent stupides.
Mm-hmm.
C'est bien évident.
Mm-hmm.
Chercher des différences entre l'être humain et l'animal vous paraît un non-sens. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Si la recherche de différences vise à définir un ensemble de traits universels chez l'être humain, Ça me semble une manœuvre malhonnête. Chercher l'identité des êtres humains dans les contrastes avec l'animal, c'est délimiter trop rapidement la question de l'identité. La catégorie animale désigne tout ce qui n'est pas humain. C'est une catégorie artificiellement construite pour permettre l'exceptionnalisme humain. Et l'humain est une catégorie artificiellement construite dont l'étalon est souvent le WASP, le White Anglo-Saxon Protestant. Ce que nous observons chez un animal ne peut être généralisé. Seul un infime pourcentage de chimpanzés, par exemple, réussissent le test de la reconnaissance de soi dans un miroir. Ce test montre qu'ils ont une théorie de l'esprit, c'est-à-dire ils sont capables de comprendre que les autres ont des états d'esprit qui peuvent être différents des leurs. Rien ne dit qu'en dehors du laboratoire, ces chimpanzés auraient manifesté cette aptitude. Tout ce que l'on peut dire, c'est que quelques chimpanzés, dans un laboratoire, ont manifesté quelque chose qui ressemble à une théorie de l'esprit. Vous accordez beaucoup d'importance au savoir pratique des éleveurs. Que savent-ils de plus que les chercheurs en laboratoire? Dans les élevages non industriels, comme ceux de moutons ou de vaches, le savoir des éleveurs est plus diversifié que celui qui découle des observations en laboratoire, où les chercheurs se cantonnent dans des problématiques qui ne sont pas intéressantes au point de vue de l'affectivité de l'animal. Dans la nature, les animaux vivent en troupeau et établissent des relations beaucoup plus complexes qu'en laboratoire, ce qui les oblige à plus d'inventivité. Ils ont une forme d'autonomie. Ils doivent savoir qui est le meneur, qui est lié à qui, etc. Ces conditions nous aident à mieux comprendre l'intelligence animale, et il serait souhaitable qu'il y ait plus de collaboration entre les scientifiques et les éleveurs. Dans votre ouvrage « Pensez comme un rat », vous invitez les chercheurs à s'interroger sur ce qui rend le rat heureux. Est-ce délibérément provocateur? Peut-on vraiment parler de bonheur animal? Si ça provoque, dit-elle, j'en suis heureuse. Ça signifie que s'ouvre une perspective à laquelle on n'avait pas pensé. Certains chercheurs choisissent sciemment de parler de bonheur animal parce que le bien-être n'est pas seulement l'absence de souffrance, mais le fait de se sentir bien. Nous n'avons aucune raison de réserver les termes à notre seul usage. En les appliquant aux autres animaux, ces termes vont s'enrichir. Que signifie pour un chimpanzé ou un éléphant d'être triste parce qu'il a perdu quelqu'un? Ce n'est probablement pas la même tristesse que la nôtre. Question. Certains proposent d'accorder aux animaux le statut d'être doué de sensibilité ou de personne non humaine. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y vois un signe d'hésitation, et l'hésitation est une bonne chose. Mais je suis contre le principe d'accorder des droits de ce type aux animaux. Ma crainte, c'est que cela ratifie le sort encore plus misérable de ceux qui seraient exclus de ce statut. C'est prendre le risque de légitimer une injustice encore pire, parce que la faute incomberait alors aux non-élus qui ne se qualifieraient pas pour cette catégorie. Je n'adhère pas non plus au véganisme ou végétalisme intégral, même si j'ai énormément d'admiration et de sympathie pour ces prises de position extrêmement courageuses qui visent à éliminer toute forme d'utilisation de l'animal. La cohabitation entre l'humain et les autres animaux ne sera jamais totalement pacifique. Notre monde est un monde mortel, un monde de finitude dans lequel il arrive que les espèces se fassent mutuellement du mal. Alors, c'est un texte intéressant. C'est une chercheuse de l'Université de Bruxelles. Et ça a un lien avec ce qui se passe actuellement au Québec, parce qu'il y a un projet de loi qu'on va proposer à l'Assemblée nationale sur la protection des animaux. Alors, elle dit qu'elle ne s'intéresse pas, parce qu'on parle de créer des êtres sensibles, qu'on dit. Maintenant, ce sont des meubles au sens du Code civil. On veut créer des êtres sensibles. Elle dit que cette question-là, pour elle, c'est pas la bonne chose à faire. C'est dans l'actualité du mois de septembre.
Alors, après ce bien-être animal, on va aborder l'art de se faire plaisir en tant qu'être humain.
Bon.
Ce n'est pas parce que Gilles Vigneault chante « Tout le monde est malheureux tout le temps » que c'est vrai tout le temps. La vie nous offre parfois et même souvent de bons moments si nous lui donnons un petit coup de pouce. L'art de se faire plaisir est à portée de main, il en coûte parfois si peu. Voyons ce que nous en disent nos invités. La première, Sylvie Malaison, 65 ans, retraitée de la fonction publique. L'art de se faire plaisir, terra incognita, ou presque. Dans ma famille, on cultivait plutôt l'art de faire plaisir aux autres, aux grands-parents, aux parents, à la maîtresse d'école, aux camarades de classe, aux personnes moins nanties, aux garçons qui deviendraient nos maris, et plus tard à nos patrons, à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est donc sur le tard que j'ai appris à me faire plaisir à travers des choses toutes simples. Marcher dans le parc, contempler la nature en silence, lire jusqu'à 3 heures du matin sans me préoccuper du lendemain, cuisiner lentement, prendre un bon verre de vin, méditer, écrire à mes amis. Vivre en prenant la mesure du temps. La deuxième invitée, Jeanne Darcroix, 66 ans, conseillère à la qualité des services au centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes à Québec. Le plus grand de mes plaisirs, c'est de me sentir utile aux familles à qui l'on vient d'apprendre qu'elles doivent placer un être cher dans un établissement de soins de longue durée. Souvent, les yeux se mouillent parce que la douleur est trop grande. Je prends le temps d'écouter et d'attendre que les larmes se taisent, puis j'ajuste, selon les personnes, le déroulement de la rencontre et la visite des lieux. Lorsqu'une heure plus tard, les gens m'embrassent en quittant le centre parce qu'ils savent qu'un milieu de vie est possible pour cet être qui leur est cher et que leur détresse fait place à l'espoir, je suis profondément heureuse. Madeleine Caron, 59 ans, agricultrice. J'aime cuisiner avec mes petits-enfants. Je les mets à l'ouvrage quand je fais, par exemple, de la soupe aux carottes. Louis, 10 ans, est très habile. En plus de bien parer les légumes, il manie les ustensiles avec facilité. Son père est chef cuisinier, alors il a ça dans le sang. L'automne dernier, j'avais une abondante récolte de tomates. Chacun est reparti avec sa petite conserve. L'hiver, c'est généralement Camille qui me demande de confectionner des beignes. On prépare également des biscuits délicieux en vue de nos randonnées à l'extérieur. Ici, à Lillet, ce ne sont pas les sous-bois qui manquent. Marcher au grand air, ça aussi, c'est un autre de mes plaisirs. Marcel Sabourin, 80 ans, comédien. Rien ne me donne autant de joie qu'étreindre ma femme et prendre dans mes bras mes 4 garçons et mes petits-enfants. Mais le grand plaisir que je m'offre depuis quelques années, c'est de demeurer seul dans le silence complet à mon réveil. Durant 3 heures, parfois à me délecter d'exister au creux du lit. On ne se laisse pas assez baigner dans le mystère de la vie. La vie est un miracle, un bouquet de plaisir pour qui a un toit sur la tête, de la nourriture et des vêtements. Avec en plus un métier que j'adore, le plaisir de dire des grands textes, de tourner des films inspirants et de côtoyer tant de gens magnifiques sur les plateaux, je suis privilégiée. Le soir, un de mes petits plaisirs est d'écouter la télévision, mais en augmentant souvent la vitesse. Les plus grands voleurs sont ceux qui nous volent non pas notre argent, mais notre temps. Je termine la soirée par ce rituel toujours jouissif, savourer ma barre glacée Häagen-Dazs.
Häagen-Dazs.
Oui, la bonne crème
avant
glacée.
Avant de se coucher.
Oui. Oh. Huguette Vachon, assez âgée pour savoir où se trouve le vrai bonheur, gère une partie de la collection des tableaux de son compagnon décédé, le peintre Jean-Paul Riopel. Me faire plaisir, c'est cuire un œuf à la coque, rapporté du poulailler par ma petite fille de 5 ans, qui espère chaque fois, en cassant la coquille, qu'elle verra un petit poussin dans son assiette. C'est assurément me permettre de vivre sur une île au cœur du fleuve Saint-Laurent, au rythme de ses marées. C'est me laisser porter par le harfang des neiges au premier froid de l'hiver pour rêver de la présence de mon amoureux disparu.
Ah, c'est idyllique.
Oui. Hein. Autre invité, Claude Bélanger, 56 ans, chercheur en sciences de la Terre. Je ne pense pas être particulièrement doué pour me faire plaisir. Si on met à part le fait que le plaisir, c'est parfois les autres, disons que dans la vie de tous les jours, ça passe souvent par m'accorder du temps pour jouer au piano ou être assez chanceux pour tomber sur une lecture captivante. Parfois, le plaisir s'offre sans qu'on l'ait cherché, par exemple la beauté d'un ciel cristallin à l'heure bleue. De manière générale, je n'aime pas posséder des choses et je ne suis donc pas du genre à me récompenser par de petits cadeaux. On est riche de ce que l'on n'a pas besoin. Mais j'ajoute que le voyage a sûrement été et est encore pour moi une façon de me faire plaisir. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé voyager pour l'ensemble de l'expérience, pas nécessairement pour m'enfiler les sites les plus prisés du pays que je visite. N'est-ce pas, Serge, vous qui voyagez beaucoup ?
Ah oui ?
Oui. Enfin, André Gollin, 78 ans, écrivain. Pour une grande part, on est artisan de son bonheur. À force de chercher le bonheur des autres, on peut passer à côté du sien. Il est pourtant fait de son quotidien le bonheur. Un peu de soleil à la fenêtre, la pluie qui chante sur les toits, le chat qui ronronne à ses pieds, un petit déjeuner qui se prolonge. Après tout, on peut faire un lac d'une goutte d'eau, un long voyage d'une simple promenade, devenir touriste dans son paysage et voir chaque jour comme si c'était la première fois. Entre le cri de la naissance et le silence de l'envol, on peut être pas mal heureux. Oh. Voilà. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous fait plaisir?
Ah, c'est très intéressant comme texte.
Voilà.
Je pense qu'on va le relire.
Je n'en parlerai pas trop ce matin.
Bon.
Un jour de différence dans toute une existence, ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble grise, 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience, et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup. Pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
Bon, alors nous plongeons dans un sujet qui est tiré de la revue Itinéraire. Ça s'appelle la judiciarisation, et c'est Héloïse Bargain, ou Bargain, qui a écrit cet article-là. C'est très intéressant parce qu'on entre dans un monde auquel on n'est pas habitué. C'est le monde des itinérants et qui paient des amendes et qui n'ont absolument pas d'argent pour les payer. Et pour comprendre, la judiciarisation désigne l'intervention croissante de la justice pour régler des affaires ordinaires, notamment ce qui concerne les infractions commises par les personnes itinérantes. En d'autres mots, elles recevront des amendes, auront un dossier judiciaire, seront appelées à la cour, et ce même si elles n'ont pas les moyens de payer. Okay? Alors, 1 400, 20 000 ou 110 000 $ pour avoir traversé la rue au feu rouge ou uriné derrière une église. Ouais, ça doit être 110 000, ça. Voilà des réalités auxquelles sont confrontées les personnes en situation d'itinérance ou marginalisées. Oui, on va vous expliquer ça un petit peu plus loin, enfin, j'espère. Mais comment honorer ces dettes lorsqu'elles sont jugées injustifiées ou que l'argent manque? En 2013, Silvio Hébert, camelot, à l'itinéraire, a perdu son automobile, son emploi de livreur et son logement. Ça va bien. Tout cela en une journée pour avoir enlevé sa ceinture de sécurité en se stationnant. À cause des 46 $ d'amende, il n'a pas pu régulariser ses plaques d'immatriculation et s'est fait saisir son véhicule dans lequel il dormait et avec lequel il travaillait. Depuis, Silvio a perdu son permis de conduire. Il ne pourra le récupérer que lorsqu'il aura payé les frais de son dossier judiciaire. Or, sa dette estimée a grimpé à 1 400 $, une somme qu'il n'a absolument pas les moyens de payer. C'est le fun, non? Comparativement à d'autres, cette somme n'est pas si élevée. La plus grosse dette judiciaire enregistrée à la clinique de Roy Devant, un centre d'accompagnement judiciaire pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal, dépasse les 110 000 $. Mais ce que l'on retrouve souvent, c'est 15 000 à 30 000. Incroyable. Nuance Isabelle Raffestin, coordinatrice de la clinique. Quelles infractions peuvent bien mériter de tels montants? La plupart du temps, il s'agit de contraventions en lien avec l'espace public, comme dormir dans des lieux publics, dans le métro, uriner, flâner. Ces comportements sont inévitables et sont directement en lien avec la stratégie de survie des personnes en situation d'itinérance, précise Marie-Ève Sylvestre, professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et recherchiste dans le domaine de la judiciarisation. D'étiquette dirigée. Et si Silvio n'était pas en situation d'itinérance, s'il ne dormait pas dans sa voiture, aurait-il reçu une amende pour s'être stationné sans ceinture de sécurité? Il pense que sa personnalité était visée. Pour lui, cet acte aurait pu être commis par d'autres personnes sans être puni, et ça, c'est ce que l'on appelle du profilage social. Le profilage social commence lorsqu'un groupe d'individus est surexposé aux interventions policières en raison de critères sociaux. Isabelle Raffestin explique. Il découle de la théorie américaine de la vitre brisée. Selon ce concept, un délit visible en entraîne automatiquement un autre. Et c'est pourquoi chaque délit est réprimé même s'il est mineur. En s'inspirant de cette théorie, la Ville de Montréal a mis l'accent sur la lutte aux incivilités depuis les années 2000. Et c'est ce qu'on a appelé le nettoyage social. Et ça a eu un impact proportionnel pour les personnes itinérantes, dit Mme Sylvestre. C'est-à-dire que les personnes en situation d'itinérance ont plus de risques de recevoir des contraventions, car chaque geste de leur vie quotidienne, comme uriner ou dormir, peut être considéré comme un délit. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a reconnu, en 2009, l'existence d'un profilage social dans les pratiques du SPVM. Elle précise que les plans d'action du SPVM de 2007, 2008 et 2009 font mention explicite des groupes considérés par le SPVM comme étant les premiers producteurs d'incivilité, les itinérants, les squeegees, les prostituées, les jeunes de la rue, etc. Oh, de toute façon, t'es qu'une poubelle. Ça, c'est une expression. Voici les mots adressés à Serge Lapointe, une personne en situation d'itinérance, par un policier. Des propos rapportés à la clinique droit devant et d'autres témoignages mentionnent également des insultes, des passages à tabac et des menaces de mort. D'autres expliquent aussi que les policiers les connaissent et parfois elles se font suivre par l'un d'eux de manière régulière. Silvio Hébert le confirme. Le policier qui lui a donné une contravention de 46 $ l'avait déjà interpellé pour avoir traversé à un feu rouge un mois plus tôt. Mais selon Isabelle Billette, conseillère en planification au SPVM, seule une minorité de personnes reçoivent des contraventions. Et durant l'année 2008-2009, 5,9% à 12,7% de personnes itinérantes auraient reçu un constat d'infraction selon un rapport coécrit avec Rémi Boivin, professeur en criminologie à l'Université de Montréal. De la rue à la cour. Pas la cour. La cour.
Le tribunal.
Oui. Au Québec, l'emprisonnement pour non-paiement d'amende est toujours en vigueur en vertu du Code de procédure pénale. Les particularités montréalaises, depuis 2006, un moratoire interdit ce type d'emprisonnement. Selon Isabelle Raffestin, même l'incarcération n'est plus une menace. La judiciarisation reste un poids symbolique pour les personnes itinérantes. Pour aider les personnes à se libérer de leur dette judiciaire, la clinique Droit Devant les aide à contester une contravention, les accompagne dans le processus de déontologie judiciaire et négocie leur paiement. En collaboration avec la Cour municipale, la clinique propose également un programme d'accompagnement en justice itinérante à la Cour. Et ce dernier peut, dans certains cas, effacer l'ensemble des contraventions d'une personne si elle s'inscrit dans une démarche de réinsertion. Bon, ben, il y a de l'espoir. 2015, hein? Où en est-on? Travailleurs sociaux, recherchistes, politiciens, tous étaient au rendez-vous des troisièmes états généraux de l'itinérance pour discuter des problématiques actuelles. Alors, si toutes les réclamations étaient entendues, les personnes marginalisées et itinérantes ne seraient plus prises pour cible. Silvio pourrait peut-être même récupérer son permis de conduire, son véhicule et prétendre à un nouvel emploi. Alors, il y a d'espoir. C'était dans la revue Itinéraire, un article écrit par Héloïse Bargain.
Alors maintenant, les brèves avant la pause. Mieux manger pour prévenir l'Alzheimer.
Ah oui?
Oui, de plus en plus de recherches tendent à démontrer que l'alimentation pourrait modifier le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, certaines études soulignent l'effet bénéfique du café. D'autres chercheurs ont découvert que des habitudes alimentaires incluant beaucoup de fruits et légumes frais, de grains entiers, du poisson et des produits laitiers faibles en gras réduisaient le risque de maladie. À l'inverse, les grands consommateurs de sucreries, frites, produits laitiers riches en gras et charcuteries voyaient leur risque augmenter. Comme c'est la saison des récoltes, on en profite pour faire le plein de vitamines en mangeant les fruits et les légumes frais du Québec, tout en intégrant régulièrement à son menu les autres aliments préventifs.
Oui, l'huile de coco.
Oui.
Si vous allez sur Internet, l'huile de coco, moi j'en prends tous les matins.
Ah ouais? Alors,
depuis ce temps-là, je fais de la cocologie, c'est extraordinaire.
Écoutez Kiosque Magazine.
Et celui du lundi 24 août se poursuit pour la prochaine demi-heure. Je me tourne maintenant vers le Reader's Digest du mois d'août. Alors, j'ai un texte qui a pour titre « L'éthique est plus importante que la religion ». Il s'agit d'un papier signé par Franz Alt, A-L-T. Et c'est le Dalai Lama qui fait cette affirmation.
Oui, oui.
Le Dalai Lama a célébré ses 80 ans le 6 juillet dernier. Le passage du temps est loin d'avoir terni la pertinence de son vivant plaidoyer en faveur de la compassion, de la non-violence et de la tolérance. Au contraire, il s'avère des plus à propos dans notre monde actuel, où selon lui, l'éthique est plus importante que la religion. À la suite des attaques terroristes de Paris en janvier 2015, vous avez prononcé une phrase provocatrice pour un chef spirituel. Certains jours, je pense que ce serait mieux qu'il n'y ait aucune religion. Que vouliez-vous dire par là? La connaissance et la pratique religieuse étaient et sont certainement utiles, mais ne suffisent plus à notre époque moderne, comme de nombreux exemples ne cessent de le prouver à travers le monde. Cela vaut pour toutes les religions. Des campagnes sont menées en leur nom, dont des guerres saintes, depuis des millénaires. On recourt à la violence et on la justifie par la religion, qui est en effet très souvent intolérante. C'est pourquoi je déclare qu'au 21e siècle, nous avons besoin d'une nouvelle éthique qui transcende toutes les religions. Notre spiritualité humaine élémentaire est encore plus cruciale que la religion. C'est une prédisposition à l'amour, la bonté et l'affection que nous portons tous en nous, indépendamment de nos croyances. Question. Comment en êtes-vous venu à cette conclusion? Il dit « Je vis en exil en Inde depuis 56 ans J'ai été forcé de fuir le Tibet en raison du conflit qui a découlé de l'occupation du pays par la Chine en 1950. L'Inde est une société séculaire qui respecte une éthique séculaire. Le Mahatma Gandhi était un religieux intimement convaincu, mais aussi un esprit séculier. Il est mon modèle car il incarne la tolérance religieuse, et cette tolérance est profondément enracinée dans la société indienne. Les hindouistes, les musulmans, les chrétiens, les sikhs, mais aussi les jaïnes, bouddhistes, zoroastriens, juifs, agnostiques et athées vivent, à quelques rares exceptions près, pacifiquement ensemble. Le monde actuel devrait suivre ce modèle. Question. Tous les jours, 150 espèces animales et végétales disparaissent. Nous émettons 150 millions de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quel impact une éthique séculière peut-elle avoir sur cette situation? Réponse du Dalai Lama. Au siècle dernier, nous avons effectué de grands progrès sur le plan matériel. C'est une évolution globalement positive. Mais ces progrès sont également ceux qui ont mené à la destruction actuelle de l'environnement. Aujourd'hui, nous devons apprendre, cultiver et appliquer davantage de valeurs humaines à tous les niveaux, par exemple la pleine conscience, l'éducation, le respect, la tolérance, la prévention et la non-violence. Que nous adhérions à une religion ou non, nous avons tous une source éthique élémentaire et humaine en nous. Il existe deux façons de voir la nature humaine. L'une d'elles considère l'homme comme violent, brutal et agressif par nature. L'autre perspective veut que nous soyons naturellement enclins à la bonté, l'harmonie et à une vie pacifique. J'adhère à cette deuxième vision. C'est pourquoi je considère l'éthique non pas comme la somme de commandements et d'interdits qu'il s'agit de suivre, mais comme une force naturelle et innée qui peut nous inspirer à rechercher le bonheur et la satisfaction pour nous-mêmes et pour les autres. Personnellement, le vœu très simple qui m'anime est celui de contribuer au bien-être supérieur de l'humanité et de tous les êtres humains. Une éducation éthique à partir de 14 ans est plus importante que la religion. L'éducation change tout. Nous avons la capacité d'apprendre. Question. Parmi les 6 milliards de croyants sur la Terre, nombreux sont ceux qui ne prennent pas leur propre religion au sérieux. Réponse, malheureusement, parmi les 6 milliards de croyants, entre guillemets, nombreux sont les corrompus qui ne poursuivent que leurs propres intérêts. Cependant, il n'y aura de paix extérieure que lorsqu'il y aura davantage de paix intérieure. Cela vaut pour tous les conflits actuels en Ukraine, au Proche-Orient, en Afghanistan, au Nigeria, presque partout. Le fondamentalisme religieux est l'une des raisons de la guerre. Nous savons aujourd'hui parfaitement que le risque d'une guerre nucléaire reviendrait à un suicide. Cela seul montre combien nous sommes interdépendants. La recherche neurobiologique moderne suggère fortement qu'un comportement altruiste est plus satisfaisant que l'égoïsme. Les hommes ne sont pas obligés de se comporter de façon égoïste. Ils peuvent aussi accueillir ce qui leur est étranger et prendre exemple sur le bien-être des autres. L'altruisme rend tout simplement plus heureux. Le bonheur ne dépend pas du hasard, mais est une faculté que chaque individu porte en lui. Tout un chacun peut être heureux ou le devenir. La recherche moderne nous apprend quels facteurs favorisent le bonheur et lesquels l'entravent. Nous pouvons transformer pas à pas les facteurs qui empêchent notre accès au bonheur, et cela est vrai tant pour les individus que pour la société en entier. L'objectif de l'éthique séculière consiste à la fois à nous libérer de souffrances passagères et durables et à développer la capacité d'épauler les autres dans leur aspiration au bonheur. Être prêt spontanément à œuvrer pour le bien-être d'autrui est un aspect de la compassion. Et il dit ceci ensuite, « Vous accordez beaucoup d'importance à la recherche moderne sur le cerveau. Pourquoi? Notre cerveau est un organe d'apprentissage. La neuropsychologie nous enseigne que nous pouvons l'entraîner comme un muscle. Nous pouvons ainsi assimiler consciemment le bon et le beau, influencer positivement notre cerveau et surmonter ce qui est négatif. Ce sont des progrès révolutionnaires. Grâce à eux, nous avons davantage la certitude que l'éthique, la compassion et le comportement social nous sont innés, tandis que la religion nous est inculquée. La conclusion est que nous pouvons en tirer est que l'éthique s'enracine plus profondément et de manière plus naturelle que la religion. » Des propos très sages du Dalai Lama. C'est dans la sélection du Reader's Digest du mois d'août qu'on peut lire ce texte.
Alors, maintenant, à l'heure du chacun pour soi, ne vous désolez pas de ne pas connaître vos voisins. Vous aménagez dans un nouveau quartier et vous souhaitez découvrir les gens qui vous entourent. Vous pouvez tout à fait prendre les devants. Et voilà donc 10 façons de connaître vos voisins. C'est écrit par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de juillet-août 2015. La première façon, c'est d'organiser une fête des voisins. C'est une occasion unique de faire connaissance et de créer un lien d'appartenance avec les gens des environs. Plusieurs municipalités participent chaque année à la fête des voisins, organisée par le Réseau québécois des villes et des villages en santé. Pour connaître les municipalités participantes, consultez le site www.fetesdesvoisins.qc.ca. Vous y trouverez également une foule de conseils, dont des idées de repas et d'animation pour lancer votre propre fête dans la rue, la ruelle, le parc du quartier ou pourquoi pas votre cour. Demandez l'aide de vos voisins immédiatement pour l'organisation des festivités. Certains refuseront, tant pis, mais d'autres seront certainement ravis de donner un coup de main. Le plus simple, une formule de type buffet collectif où chacun apporte un plat et ses boissons. Si possible, regroupez quelques barbecues pour ceux qui préfèrent la cuisson sur le grill. Afin de mettre de l'ambiance et de briser la glace, proposez diverses activités comme un tournoi de soccer, de pétanque ou de poche entre parents et enfants. Sortez aussi quelques jeux de société que vous poserez sur une table de pique-nique. Installez une longue banderole de papier ou de tissu sur un mur extérieur ou une planche de bois et proposez aux enfants d'y créer, avec des crayons de cire ou de gouache, une fresque illustrant la vie du quartier. Et si vous avez la chance d'avoir des voisins musiciens, demandez-leur de jouer quelques airs. Vivement que la fête commence. Deuxième façon, pour connaître vos voisins, fréquentez le café du quartier. C'est souvent le lieu de rassemblement des gens du coin. Vous y ferez assurément de belles rencontres et vous finirez même par vous y sentir comme chez vous. Vous êtes un nouvel arrivant, n'hésitez pas à vous informer auprès des employés et de la clientèle des bonnes adresses du quartier. Chacun se fera un plaisir de vous dévoiler ses trouvailles et c'est une façon simple d'entrer en contact avec les gens. Invitez trois vos voisins à verdir la ruelle. Personne n'aime les ruelles sales, encombrées et fades. La bonne idée, invitez ceux qui partagent la vôtre à une corvée de nettoyage et d'embellissement. En plus d'améliorer votre qualité de vie, l'opération vous permettra de fraterniser avec ceux qui vous entourent. Et si l'ambiance est à la fête, pourquoi ne pas terminer la journée par un pique-nique communautaire? 4. Saluez vos voisins. Un sourire ou un simple bonjour aux gens que vous croisez régulièrement dans votre quartier crée une ouverture à d'éventuelles conversations. Sans compter que la vie est tellement plus agréable quand on sourit. 5. Des légumes pour tous. La récolte de votre jardin a été fructueuse. Faites-en profiter vos voisins. Ceux-ci possèdent leur propre potager. Offrez-leur d'échanger des plants de légumes, des semences et des conseils de jardinage. Il n'y a rien comme éprouver une même passion pour nouer des liens. 6. Soulignez l'arrivée de nouveaux venus. Nouez un premier contact en vous présentant à vos voisins pour leur souhaiter la bienvenue. Offrez-leur une petite douceur comme des muffins frais sortis du four ou votre irrésistible sucre à la crème. Ils arrivent dans le quartier, préparez à leur intention une liste des services à proximité, boulangerie, resto, parc, activités sportives, principaux attraits du quartier, etc. Ils vous en seront assurément reconnaissants. 7. Organisez un club de marche. Réunissez des gens de votre quartier qui ont à cœur de se mettre en forme. Pour ce faire, publiez une petite annonce dans le journal local ou épinglez un mémo sur les babillards communautaires avec toutes les infos requises, journée, heure, point de rencontre, etc. Qu'importe l'âge, chacun effectue le parcours à son rythme. À la fin, tous se retrouvent dans un petit café, plus amusant que de marcher seul. 8. Participez à la vie culturelle, sociale ou sportive du quartier. Faites du bénévolat, fréquentez des associations. Inscrivez-vous à des cours. C'est en participant à la vie communautaire que vous découvrirez les gens de votre coin. 9. Partagez journaux, magazines et livres. Plutôt que de mettre tous ces documents au recyclage, faites-en profiter quelques voisins intéressés. Vous n'avez par exemple qu'à les glisser dans leur boîte à lettres et à leur tour, ils le refileront à d'autres. Proposez également des échanges de bouquins. En plus de réaliser des économies et de faire des rencontres, vous découvrirez fort probablement des auteurs inconnus et qui sait, de nouveaux coups de cœur. Enfin, 10. Soyez un bon voisin. Respectez les règles du bon voisinage. Évitez de faire du bruit à des heures indues. Bannir les commérages. Être discret. Si on fait une fête, on avise les voisins immédiats. Empêcher son chien de japper continuellement, etc. En étant un voisin respectueux du bien-être des autres, vous serez fort probablement un voisin apprécié et populaire dans votre quartier. Voilà donc quelques conseils écrits par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge.
Judicieux.
France creuse à l'appel, à la une des nouvelles, des messages à deux faces, une pour le cash, l'autre pour les flashs, toujours la même cassette, toujours la même cassette. Les clichés se répètent et la parole s'émiette, les cordes de langue de bois. Pour mettre le feu à tous les Judas, toujours la même cassette. Toujours la même cassette. Et si on la faisait jouer à l'envers, pour une fois, en éliminant tous les effets dans la voix, est-ce qu'on y verrait plus clair? Toujours bla bla bla. Recule, avance, recule. Le bon sens capitule devant l'embobineuse. Coincé dans l'auto reverse, toujours la même cassette. Toujours la même cassette. Oh.
Bon, ben plus on avance, plus on a un petit creux. Hein? On a quitté le petit-déj et on s'en va vers le dîner, tranquillement, le déjeuner. Le dîner en québécois.
Creux dans ce sens-là.
Alors, j'ai un petit article ici. Êtes-vous un amateur de salsa? On ne parle pas de la danse. On parle de salsa, la sauce. Eh bien, l'article s'appelle « Tomate en folie ». C'était écrit dans la revue « Protégez-vous » et par Catherine Crépeau. Ils se sont mis deux. Il y a Clémence Lamarche aussi qui a écrit ça. Et chacune ont dégusté des salsas. Là, ils s'en peuvent plus. Bon. Alors, si salsa rime avec soleil, elle ne s'accorde pas toujours avec santé. Ah!
Oh.
Salsa, ça commence par un S.
Oui.
Mm-hmm. Soleil et santé.
Ça.
3S, quelque chose. Alors, puis moi, je m'appelle Serge. S, 4S, ça en fait. Alors, la salsa se définit comme une sauce pimentée à base de tomates qu'on associe généralement aux nachos. Pas aux machos, aux nachos.
Ouais.
Aux fajitas et autres plats mexicains. La grande majorité des 107, il y a 107 variétés.
Le salsa?
Ouais. Alors, que nous avons analysé répond à cette description. Je suis dans la revue Protégez-vous, moi. Mais nous en avons aussi trouvé à base de tomatilles. De tomatilles. C'est la première fois que j'entends ce mot, moi.
Tomatilles. Des petites tomates.
Ben, ça doit être ça. De mangue, de piment, de maïs et de haricots noirs. Ah, ils font des salsas avec tout. Peu importe la recette, cependant. Ah, ah, le sodium, il occupe beaucoup de place.
Oh, ah, le méchant.
Le méchant sodium, ça commence par un S, ça aussi. Sur les 30 produits recommandés, seulement 8 figurent dans nos meilleurs choix, voyez-vous, et 22 dans nos bons choix. Soit dit en passant, suite à la revue Protégez-vous, j'ai acheté un téléviseur qui mentionnait comme étant le meilleur.
Oui.
Et je dois vous avouer que je ne suis pas déçu. Bon. Sauf qu'il n'y a pas d'entrée d'écouteurs.
Ah.
Oh, les nouveaux téléviseurs, il n'y a pas d'entrée d'écouteurs derrière. Faites attention à vous. Alors, on revient dans la salsa. Mais les couleurs, c'est tellement... La salsa devrait être riche en légumes, mais pas en sel. Hein? Malheureusement, certains fabricants en mettent beaucoup. Ça a l'air que les extraterrestres viendraient sur la Terre pour le sel. Ouais. La salsa verte piquante, jalapeno, de Mrs. Renfrews, qui n'est pas recommandée, est la plus salée de notre évaluation. Elle contient 510 mg de sodium par portion, soit près du quart de l'apport maximal tolérable quotidien fixé à 2300 mg par Santé Canada. Alors, comme vous accompagnerez sans doute la salsa de croustilles de maïs et de fromage fondu, deux aliments salés, mieux vaut choisir un produit qui n'en fournit pas trop et qui respecte au moins le critère que nous nous en sommes fixés pour les bons choix. Donc, si on résume ce que je viens de lire, dans la salsa, il y a en général beaucoup de sel. Hein? Parmi tous les produits évalués, seulement 12 variétés de 3 marques différentes, le choix du président, Banditos et Desert Pepper, répondent à notre critère de meilleur choix pour le sodium. 7, dont 5 de nos meilleurs choix en contiennent même moins que la limite fixée à 85 mg, soit 75 mg. Et d'autres produits trouvés sur le marché sont encore moins riches en sodium, comme la variété médium piquante aux pêches et aux mangues de Desert Pepper, qui en renferme aussi peu que 45 mg. Nous l'avons cependant exclue de nos meilleurs choix, car elle excède de 1 g la limite de sucre. Voilà. Non, c'est pas le sel, c'est le sucre. Hein, que nous avons fixé et qui constitue notre second critère de sélection.
Un autre S? Eh oui.
C'est incroyable. Les S sont frimés ce matin. Alors, le sucre atténue l'acidité des tomates, bien sûr. Moi, j'en mets quand je fais ma sauce à spaghette. Ouais. Spaghette, c'est un autre S. Ah. La salsa idéale devrait en contenir très peu et de sources naturelles, par exemple, de fruits, plutôt que du sucre ajouté, sucre, sucre de canne, jus de canne évaporé, cassonade, jus d'orange concentré de jus de poire, etc. Malheureusement, plusieurs des produits analysés contiennent du sucre ajouté. Notre critère de sucre fixé à 1 gramme, 1/4 de cuillerée à thé, ou moins par portion, tient compte des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et non pas l'Orchestre symphonique de Montréal. Elle établit que les sucres doivent représenter moins de 10 % des calories consommées quotidiennement, soit environ 50 grammes, 12 cuillerées à thé pour un adulte. Plus du tiers des produits évalués ne respectent pas notre limite de sucre. Les pires sont les salsas jalapeno et fruits de la passion et pêche et mangue de la marque Le Choix du Président, collection noire. Hey, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, hein? Collection noire, c'est les pires. Avec leurs 4 grammes de sucre par portion, elles ne sont pas recommandées. Parmi nos meilleurs et bons choix, seuls 2 produits ne renferment pas du tout du sucre. La variété médium piquante à la tomate rôtie, au piment chipotlé et au maïs de desert pepper et la salsa mexicaine gourmet picante chipotle, tomatillo rôti et ail de frontera. Ah. Aucun produit ne renferme d'édulcorant. Et puis, commencez-vous à avoir le goût de manger de la salsa, vous, ce matin? Hein? C'est merveilleux, ça donne ça met l'eau à la bouche, surtout si c'est trop salé. C'est tout.
Des brèves maintenant, ouais. Dans le commerce. La générosité a meilleur goût, savez-vous ça, Serge? Même pour la salsa.
La générosité, tout à fait.
Un produit est-il de meilleure qualité lorsque l'entreprise qui le commercialise verse des dons à une œuvre de charité?
Ah.
Aux yeux de bien des gens, la réponse est oui, ont observé des chercheurs de l'Université Northwestern en Illinois. Ça m'étonne toujours, on fait des recherches sur tout. C'est ce qu'ils appellent le halo de bienveillance. Les 2 spécialistes en marketing ont mis des consommateurs à l'épreuve. Résultat, un même vin avait meilleur goût quand on leur disait que le vignoble donnait à une œuvre de charité. Un produit blanchissant pour les dents, des chaussures de course et un traitement contre la calvitie présentaient de meilleurs résultats. Mais attention, l'effet du halo de bienveillance diminue lorsque l'entreprise publicise de façon trop appuyée sa générosité. Alors, la modération a meilleur goût. Autre brève.
Oui, j'en ai une aussi alimentaire pour faire suite à ce que disait Serge.
Oh oui.
Mais moi, il est question de purées qui ont du goût. En effet, plusieurs personnes âgées souffrent de dysphagie, ce qui rend difficile le passage des aliments de la bouche à l'estomac. Comme elles doivent se nourrir en purée, le plaisir de manger est considérablement affecté. Bonne nouvelle, des étudiants en nutrition de l'Université Laval ont relevé le défi de créer des recettes de purées attrayantes et goûteuses. On les trouve sur le site purequebeccestbon.fsaa.ulaval.ca.
Bon, ben moi j'ai une petite brève. Votre salsa préférée contient du chlorure de calcium.
Calcium?
Ouais. Pas d'inquiétude.
Ah.
Non, ce sel ne présente aucun risque pour la santé. Il est utilisé pour que les légumes gardent une belle texture et un peu de croquant.
Ah, hein? C'est un C, là, il n'y a pas de problème.
Ah ben non,
calcium.
Voilà.
Bon, quand on se compare, hein, en Russie, une réforme barrette à la puissance 1000. La chute des prix du pétrole frappe la Russie de plein fouet et force le pays à mettre la hache dans les dépenses de l'État. Les compressions touchent durement le système public de santé. L'an dernier, 28 cliniques et hôpitaux ont fermé leurs portes à Moscou, ce qui a envoyé au chômage près de 10 000 travailleurs de la santé.
D'ici 2018, 11 % de l'ensemble des hôpitaux publics du pays seront fermés. Augmentation du nombre de patients qui sont morts dans les hôpitaux des régions rurales russes de 2013 à 2014, 3,7 %. Il manque en ce moment 55 000 médecins en Russie. Et 17 500, c'est le nombre de municipalités qui ne possèdent aucune structure médicale sur leur territoire.
Eh bien, dis donc.
Hein? Ça va pas très bien en Russie,
non,
depuis la chute
tout,
des prix
hein?
du pétrole. Oui.
Vous savez qu'il nous reste une minute environ. Bon, 45 secondes. Et une courte liste d'ingrédients ne suffit pas à rendre un produit intéressant. À preuve, ces quatre salsas de la marque Herdez. Composées uniquement de tomates, d'oignons, de piments serrano, de sel et de coriandre, elles contiennent presque deux fois trop de sodium pour figurer parmi les bons choix.
Bon.
Alors là, vous savez, hein, quelle salsa choisir?
Oui.
La Bandito, salsa biologique à griller.
Bon, alors, avec cette salsa, nous allons mettre un point final à ce kiosque magazine du lundi. Je me souviens plus de la date.
Oui, 24. Du 24.
Du 24 du mois d'août.
C'est bon.
Ici Franceline Huviard, Serge Jamelin et Roger Roy, de même que Mathieu Tessier en régie, nous vous disons...
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, oui.